Chers frères et sœurs, il est toujours périlleux de s'attaquer à un récit qui a été médité et commenté maintes et maintes fois par les plus grands prédicateurs, par les plus grands théologiens, et qui a été décortiqué par les meilleurs exégètes. Et pourtant, il y a une approche qui, à mon avis, sera toujours nouvelle. C'est celle de la question du sens que donne à notre vie ce récit. Si certains se sont merveilleusement bien attachés à travailler la tension entre terre et ciel, et d'autres ont fait apparaître d'une manière saisissante la fausse bonne nouvelle que représente l'absence réelle du Christ, il y a dans ce récit une vraie bonne nouvelle. C'est cette mise en route des disciples après que Jésus s'éleva et qu'une nuée vint le soustraire à leur regard. Ses disciples quittent le mont des Oliviers et regagnent Jérusalem, puis se dispersent. Pourquoi cette mise en mouvement est-elle à ce moment précis une bonne nouvelle? Et pourquoi pas avant? Finalement, les disciples auraient pu se mettre en marche après la crucifixion et la résurrection. Ils avaient tous les enseignements nécessaires pour partir aux extrémités de la terre et ils portaient la bonne nouvelle. Et pourtant, après les événements de Pâques, vient celui de l'Ascension, puis celui de Pentecôte. Il est difficile de mesurer l'importance de l'événement de l'Ascension, et a fortiori, mettre en rapport cet événement avec le réel que nous vivons, sans porter un regard sur les trois événements qui se succèdent. Trois temps, trois kairos, vous savez, ces temps opportuns, ces temps, ces instants pleins de promesses qui ne se prévoient pas, mais dont il faut se saisir au risque qu'ils ne disparaissent instantanément et définitivement. Pourquoi a-t-il fallu ces trois temps pour que les disciples se mettent en route et que l'on puisse voir apparaître, selon le livre des Actes, les premières conversions et les premières communautés? Pour mieux comprendre le déroulement et la succession de ces temps, nous devons nous attarder d'abord sur ce qui se déroule avant l'Ascension, et dans un second temps, après l'Ascension. Et puis, nous verrons ainsi pourquoi ce moment si particulier est une bonne nouvelle pour nos vies. Commençons donc par ce temps qui précède l'Ascension. Depuis la résurrection, et selon la fin de l'évangile de Luc, les disciples sont toujours dans le factuel. Il faut qu'ils voient, il leur faut des preuves. Alors que les femmes ont découvert le tombeau vide, elles croient, elles, sans condition, à cette incroyable résurrection. Elles reviennent du tombeau et rapportent tout cela aux 11 et à tous les autres. Elles sont bien plus que les premiers témoins de la résurrection. Elles sont les premiers apôtres à propager une bonne nouvelle. Mais aux yeux des disciples, les femmes délirent. Les disciples ne doutent même pas, ils ne croient pas. L'épisode des disciples d'Emmaüs en est un exemple, puisque ce n'est seulement qu'au moment de la fraction du pain, quand ils voient Jésus faire la bénédiction, que leurs yeux s'ouvrent. Mais à cet instant, Jésus devient invisible, insaisissable. Il a fallu cette preuve pour que les pèlerins d'Emmaüs s'exclament et que Jésus est bel et bien ressuscité. Mais pour les 11, Jésus doit faire preuve de plus de perspicacité en leur montrant ensuite d'autres signes. Il montre ses pieds, il montre ses mains, il propose qu'on le touche et pourtant, sous l'effet de la joie, il ne croyait pas encore et il s'étonnait, dit Luc au chapitre 24. Jésus demande qu'on lui donne à manger sous leurs yeux, ces mêmes yeux qui prenaient les paroles des femmes pour des délires. Jésus prend et mange un morceau de poisson, et du poisson grillé, précise le texte, comme ultime preuve de sa résurrection. Et pourtant, aucune preuve ne vient à bout de l'incrédulité des disciples. Alors, dans l'évangile de Luc, pour les disciples, la résurrection est présentée comme un échec. Oui, un échec. Les disciples n'arrivent pas à prendre de la distance par rapport à la mort de Jésus. ils n'arrivent pas à se libérer de l'absence de leur maître, et ils n'arrivent pas non plus à prendre conscience de la présence spirituelle du Christ ressuscité. C'est un échec, car contrairement aux femmes au tombeau qui sont allées immédiatement annoncer la bonne nouvelle, ils n'arrivent pas à prendre leur place de vrais disciples et à prendre toute la dimension de la résurrection. Échec parce qu'ils n'arrivent pas à s'approprier et à faire quelque chose de la résurrection pour leur propre vie. Et si la mort de Jésus était un échec pour ceux qui attendaient le règne glorieux de Dieu, la résurrection dans l'évangile de Luc est un second échec, puisque les disciples n'envisagent même pas la possibilité d'un royaume à ce moment-là. Échec jusqu'à ce qu'arrive l'événement de l'ascension, tel qu'il est décrit dans la suite de l'évangile de Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Ce sera donc mon second point, l'ascension et l'après-ascension. Quelques instants avant cet événement de l'ascension, les disciples sont réunis avec Jésus et lui demandent à nouveau quand le royaume de Dieu sera rétabli. La réponse de Jésus est claire, les temps de Dieu n'ont pas à être connus. Ce qui relève du divin ne relève pas de l'humain. Après avoir annoncé une dernière fois que les disciples vont recevoir la puissance du Saint-Esprit, Dieu se manifeste en élevant Jésus. En établissant une distance physique entre Jésus et les disciples, à cet instant précis, les disciples sont libérés et vont recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Parce que c'est de cela dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission jusqu'aux extrémités de la terre. Selon Luc, la résurrection avait donc besoin de l'ascension suivie de la Pentecôte pour que les disciples puissent s'accomplir pleinement dans leur mission. L'ascension permet donc de mettre en place une distance physique entre Jésus et les disciples, non pas une distance de sécurité, mais une distance de liberté, une distance qui permet aux disciples d'être libérés du lien physique qui les unissait à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui les cloisonnait dans une pensée, mais les disciples n'arrivaient pas à s'éloigner de leur maître. Les disciples marchaient dans ses pas, et ne prenaient pas leur place d'adulte dans la foi. Jésus s'éloigne, comme des parents qui se sépareraient de leurs enfants quand ils sont mûrs pour les laisser voler de leurs propres ailes. Non pas qu'ils les abandonnent, mais qu'ils les laissent prendre leurs propres responsabilités, profiter du fruit de l'éducation reçue, avec parfois des erreurs. Mais leur maturité est reconnue, et plus que leur maturité, leur identité individuelle et singulière est reconnue, puisque bientôt, ils ne seront plus le groupe de disciples, mais deviendront chacun un apôtre à part entière. L'ascension est donc la reconnaissance de la maturité et de l'identité de chacun des chrétiens dans leur propre chemin de foi. Dans le récit de l'ascension, à la fin de l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus ouvre leur intelligence pour comprendre les Écritures. C'est-à-dire que les disciples sont capables d'interpréter leur vie au regard des Écritures. Ils sont reconnus capables de penser leur vie. Ils sont capables d'interroger le monde qui les entoure sans demander l'avis d'un tuteur. N'est-ce pas là la plus belle des libertés du chrétien ? Les récits bibliques n'ont jamais cessé de tenter d'ouvrir les yeux des apôtres, donc les nôtres. Aujourd'hui, avec cette fête de l'Ascension, nous voici aussi reconnus libres, adultes et responsables devant notre foi. Chercher sans cesse une réponse à une question éthique, à un problème de société dans la Bible, se poser sans cesse la question sur ce qu'aurait dit Jésus dans telle ou telle situation serait revenir à l'entre-deux-temps, ce temps, cette période entre la crucifixion et l'ascension. Cette période où nous serions incapables finalement de décider sans Jésus. Attendre du pasteur une réponse à une question, attendre tout simplement qu'un autre fasse un choix ou donne une réponse à notre place serait une forme d'aliénation, puisqu'elle déposséderait l'individu de sa capacité à écouter lui-même la parole de Dieu. L'enseignement que nous recevons à travers les évangiles, et d'une manière plus générale, la lecture de tous les textes bibliques, permet de faire émerger en nous cette parole intérieure, la parole de Dieu, cette parole qui transforme et qui devient parole créatrice. C'est tout le sens de la prière d'illumination que nous faisons au moment de la lecture biblique pendant les cultes. C'est pour qu'à la lecture de ces textes, nous laissions toute la place à cette seule parole de Dieu dans notre fort intérieur. Et en quelque sorte, c'est grâce à cette liberté acquise au moment de l'ascension que nous profitons de la richesse et de la multitude des pensées de nos églises. Je terminerai sur ce point. En faisant émerger une multitude de paroles en chacun de nous, nous devenons à notre tour ces disciples devenus capables de porter aux extrémités de la terre et proclamer la bonne nouvelle avec notre propre identité, notre propre culture et notre propre personnalité. Rêver d'une Église unique qui détiendrait la vérité serait contraire au sens même de l'ascension et de la Pentecôte, qui justement libère le noyau des disciples et qui les disperse. Les différences et la multitude de pensées de nos églises, issues ou non de la Réforme, sont les conséquences visibles de ces trois temps successifs que sont la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. L'ascension nous libère donc d'une certaine forme d'idolâtrie, de religiosité et de pensée unique. Avant l'ascension, comme je vous le disais, les disciples avaient le regard tourné vers Jésus. Il était le maître. Ils étaient les disciples. Seule la parole du maître comptait. Sans l'ascension et sans Pentecôte, la résurrection serait restée un échec pour les disciples. Et aurait peut-être été aussi un échec pour nous, parce que nous nous serions enfermés dans une figure d'idolâtrie du Christ ressuscité. Vous avez tous sûrement des souvenirs d'enseignants ou de rencontres qui ont marqué votre vie d'élève, de collégien, de lycéen, d'étudiant. Pour ceux qui ont vécu des périodes de stage, toute la difficulté réside justement dans le fait de sortir de l'ombre du maître du stage. Cette distanciation physique qui s'établit au moment de l'ascension nous libère de tout cela et nous fait sortir de l'ombre de Jésus. Elle crée une rupture et un peu comme un rite de passage, cette rupture nous permet d'entrer dans la vie avec les enseignements reçus. Sans l'ascension, sans Pentecôte, la résurrection du Christ ne serait pas ce qu'elle est pour nous. Cette présence spirituelle vivante dans nos vies du Christ. Aucun de ces trois événements ne peut être pris isolément, mais chacun des trois doit être lu, vécu, à travers le prisme des autres événements. La vraie bonne nouvelle que nous pouvons proclamer aujourd'hui est donc que Christ est ressuscité, s'est élevé pour nous libérer. Amen.